j'avais voulu vous faire prendre de l'Union Carbide à 7$ et qu'elle monte à 32.
Du Texas Instrument à 11$ et qu'il monte à 47$.
De l'US Steel à 16$ et qu'il monte à 41.
Vous me diriez tout de suite, Chester, prenez-moi quelques milliers d'actions Disney, là maintenant, et que ça saute mon garçon.
Ça ne vous rendra pas riche, ça ne vous rendra pas pauvre, mais ce genre de transaction va vous servir à...
Prendre nos marques pour de futures opérations, Kevin.
Vous êtes plus à l'aise maintenant, Scott.
De cette façon, vous serez sûr que vous allez enfin trouver un courtier à Wall Street en qui avoir confiance et qui vous fera gagner de l'argent de toutes les manières.
Les techniques de vente revues et corrigées par Martin Scorsese en 2013 avec son Loup de Wall Street et Leonardo DiCaprio. Dans l'actualité des idées aujourd'hui, l'économie de marché. On est pour ou on est contre, mais sait-on seulement ce qu'est réellement un marché? On va en parler avec le sociologue Michel Calon, spécialiste de sociologie économique, professeur émérite à l'école des mines Paris Tech, chercheur au centre de sociologie et de l'innovation, proche de Bruno Latour et de John Law, avec lesquels il a initié la théorie de l'acteur réseau ou une sociologie de la traduction, qui analyse autant les acteurs que leur discours, leur production que leur impact social. Il revient aujourd'hui avec un livre somme consacré à la réalité concrète des échanges marchands, l'emprise des marchés, comprendre leur fonctionnement pour pouvoir l'échanger, un essai, ouvrage, enquête paru à la Découverte. Dépassant les lieux communs ou le lieu, le stéréotype qui réduit finalement le marché à un lieu de confrontation entre l'offre et la demande, sur lequel régnerait une main invisible qui fixerait seule un prix, résumant aussi et réduisant le marché à une énigme, Michel Calon investit ce monde des marchés pour en montrer diversité et complexité à partir de la notion d'agencement marchand qu'il développe et qui le guide. Une nouvelle approche sociologique, donc d'un concept économique. Bonjour à vous Michel Calon.
Bonjour.
Cette entreprise de réhabilitation, non, de dédiabolisation, non, de quoi? De démystification des marchés, rendre visible ce qui est opaque, concret ce qui est abstrait, pourquoi? Qu'est-ce que vous visiez avec ce travail? Cette longue enquête.
Le point de départ, il est très simple, c'est un constat. L'économie de marché est partout. On vit au milieu de l'économie de marché. Certains parlent même de société de marché pour souligner le fait que notre société ne serait plus qu'un supermarché et se réduirait à ça. Le constat de départ, c'est précisément que, bien que tout le monde parle du marché, la notion de marché elle-même reste très mystérieuse. Lorsqu'on regarde la littérature, par exemple, on se rend compte qu'il y a très peu de définitions simples, robustes, de ce qu'est un marché. Non seulement les définitions sont plutôt simplistes, mais en plus elles sont multiples, c'est-à-dire que si on s'adresse à un économiste, il va nous donner une certaine définition de ce qu'est le marché, et la définition qu'il donne est très dépendante de l'école à laquelle il appartient, c'est-à-dire que même au sein de la discipline économique, on a des définitions très différentes. Si on s'adresse à un sociologue ou un anthropologue, on aura une autre définition du marché. Donc ce qui est frappant, c'est que cette notion qui est partout est en fait très mal définie.
Quelle est celle que vous avez retenue alors du coup, Michel Calon?
Eh bien, ce que j'ai retenu, c'est qu'il fallait s'intéresser à tous les travaux empiriques qui avaient été réalisés au cours des 30 dernières années, dans les différentes disciplines d'ailleurs, qu'il s'agisse d'économistes ou de sociologues, qui ne sont pas tant intéressés à la définition du marché qu'aux pratiques marchandes et aux activités marchandes. Et ce qu'on constate, c'est qu'il y a eu une quantité de travaux et d'études tout à fait passionnantes qui, lorsqu'on les rassemble et lorsqu'on dresse à partir d'elles un tableau le plus cohérent possible, donnent une vision radicalement nouvelle de ce qu'est un marché. C'est pour ça que j'ai proposé la notion d'agencement marchand qui permet en somme de se débarrasser des modèles ou des simplifications qui entouraient le marché pour m'intéresser à la réalité des pratiques marchandes.
Pourquoi c'est nouveau? Parce que vous nous dites que c'est nouveau, mais on ne voit pas forcément exactement pourquoi.
Alors c'est nouveau parce que ça souligne deux ou trois éléments qui sont en général passés sous silence dans les définitions habituelles, dans les présentations habituelles. La première, c'est que le marché, c'est pas quelque chose de formel, c'est un ensemble de dispositifs matériels qui aboutissent à cette adéquation absolument inattendue entre des biens et des demandes et des clients qui sont prêts à payer pour acheter les biens en question. Donc il y a tout un travail, qui est un travail matériel, qui est un travail qui demande beaucoup d'investissement et qui permet de mettre en relation des biens qui au début personne n'avait seulement l'idée, et puis des demandes qui n'existaient pas. Et il y a donc quelque chose de miraculeux, c'est ce que j'ai appelé l'énigme du marché, dans cette adéquation entre des biens auxquels on ne songeait pas, et des demandes qui n'existaient pas. Et lorsqu'on s'intéresse à ce processus, hein, qui est un processus qui demande beaucoup d'investissement, qui demande beaucoup de compétences professionnelles, etc., on se rend compte que le marché qui se découvre n'est pas du tout celui qu'on trouve dans les manuels d'économie, par exemple, avec des cours ou des choses comme ça. Ce sont un ensemble de pratiques matérielles.
Il y a donc cette dimension matérielle que vous évoquez, Michel Calon. On va préciser avec des exemples, une dimension bilatérale aussi, avec cette idée que comme point de passage obligé des marchés, il y a toujours la fabrication de transactions bilatérales. Et puis, il y a un processus de constitution du produit qui implique différents acteurs, pour ne pas dire beaucoup d'acteurs. Sur cette question des fantasmes et peut-être aussi de l'idéologie qui entoure cette question des marchés. Vous dites aujourd'hui, on pense que tout est marché. À vous lire, c'est pas totalement faux. Les marchés, le contrat qu'il peut impliquer en tout cas, est quand même très présent dans nos sociétés sous des formes qu'on n'imagine même pas. Mais si on met fin au néolibéralisme, est-ce qu'on supprime les marchés ou est-ce que les marchés lui survivront ? C'est-à-dire, est-ce que les marchés ne sont pas attachés à une théorie, à un mythe, une fable économique ?
Je crois que l'objectif, en fait, de ce livre, c'est de dissocier la notion de marché de notions qui sont plus courantes, comme par exemple celle de capitalisme. C'est-à-dire qu'on a tendance à considérer, lorsqu'on parle du capitalisme, que c'est une économie marchande et que toute économie marchande finit par être capitaliste. Ce que j'ai essayé de montrer, c'est que les marchés avaient probablement un tas de vices, présentaient un tas de vices, mais qu'ils avaient un certain nombre de vertus. Et pour retrouver les vertus qui sont souvent cachées par les vices apparents, il faut dissocier ce qu'on appelle le capitalisme de l'économie marchande. Un grand auteur comme Karl Polanyi, par exemple, qui a beaucoup écrit sur les marchés, considère, il le dit de façon très explicite dans La Grande Transformation, considère qu'il faut préserver les marchés. Et qu'il ne faut pas s'en débarrasser parce que il présente un certain nombre de qualités et de vertus, comme par exemple d'explorer en permanence les demandes. Quel autre système existe qui permet de suivre de façon continue, progressive, ce que les gens veulent, d'explorer l'univers des biens qui peut éventuellement répondre à ces demandes. Il y a donc tout un travail je crois que le mot exploration est tout à fait adapté, d'exploration de ce qu'on appelle les besoins, les désirs, les utilités, etc.
Et les valeurs peut-être, si on veut également aussi faire un clin d'œil à la sociologue Nathalie Hennig, qui est l'auteur des valeurs chez Gallimard, et qui dit d'ailleurs, on réduit la question de la valeur au prix en oubliant les principes au nom desquels sont produits les jugements de valeur. Au cœur de votre recherche, Michel Calon, il y a la question de la formation ou de la fixation du prix qui n'est pas si naturellement de la rencontre entre une offre et une demande comme on aurait tendance à le penser. En quoi cette représentation, cette idée, nous empêche-t-elle de saisir les véritables logiques du marché ?
Eh bien, ce qu'on constate, alors là, je crois qu'on peut partir, d'exemples très concrets. Ce qu'on constate, c'est que les prix ne se forment pas de façon mécanique et automatique par la confrontation de l'offre et de la demande. Il y a des bataillons de spécialistes qui sont chargés de ce qu'on appelle le pricing, c'est-à-dire de la détermination des prix. Si vous prenez par exemple une technique qui est maintenant très répandue et que chacun de nous connaît, qui est celle de la fixation des prix d'un billet d'avion ou d'un billet de train. pour arriver à déterminer le prix qu'on va proposer à tel moment pour tel type de siège, remboursable ou pas remboursable, qu'on peut dont on peut modifier la date, etc., il faut des salles entières d'informaticiens, de mathématiciens, qui en permanence ajustent le prix de telle sorte qu'il y ait une demande pour ce prix-là. Pour les médicaments, pour l'énergie, etc., ça serait également absolument artificiel de considérer que le prix s'établit mécaniquement. Donc il n'existe pratiquement pas un seul marché dans lequel le prix résulte de la confrontation entre une demande qui serait là et puis une offre qui serait là et qui serait antérieure en quelque sorte à leur rencontre.
Mais c'est peut-être de cette multiplicité des acteurs et des maillons de la chaîne que naît ce sentiment d'opacité aussi.
Tout à fait, et c'est le but du livre, c'est de montrer, de rendre visible toutes ces pratiques. C'est-à-dire que derrière ce qui apparaît comme une machinerie qui fonctionne de manière relativement automatique et sans pilote, hein, on parle de la main invisible, etc., depuis 2 ou 3 siècles, en fait, il y a plein de professionnels qui passent leur temps à résoudre cette énigme du marché, c'est-à-dire faire en sorte qu'on propose à des gens des biens auxquels qu'ils ne voulaient pas et qu'ils acceptent de payer, c'est-à-dire d'acquérir contre une contrepartie monétaire. C'est improbable. Et il faut des escadrons, des bataillons de professionnels, que ce soit ceux du marketing, ceux de la conception, etc., pour à apporter une réponse à cette question.
Et quand on va peut-être donner tout de suite à Antoine Mercier, qui a l'air impatient de comprendre,
oui,
un
oui.
exemple pratique. L'énigme ou l'équation de base de ces marchés peut se résumer ainsi. Comment offrir un produit dont on ne connaît pas encore les caractéristiques à quelqu'un qui ne sait pas encore qu'il en veut? Pour y parvenir, les multinationales, écrivez-vous, ont recours à des méthodes qui ne sont pas du tout nouvelles. Ils utilisent des méthodes assez similaires à celles des camelots ou des bonimenteurs dans les rues de Londres à l'époque. Vous vous appuyez pour ce faire sur les travaux de Trevor Pinch. Entre les vendeurs de rue et les casinos de Las Vegas, deux mondes qui n'ont a priori rien à voir, mais, écrivez-vous, mêmes obsessions des deux côtés, dévier, capter, attacher, faire payer en singularisant les biens et avec eux leurs bénéficiaires et additionner les transactions bilatérales pour faire du chiffre. Même méthode,
oui,
et même état d'esprit, même philosophie.
Oui, je crois que c'est le même, parce que c'est le même problème. Ce qui caractérise en somme le marché et qui fait qu'on peut le dissocier de formations économiques comme le capitalisme ou d'autres, ou l'économie néolibérale, etc., c'est que tous les marchés ont la même question à laquelle ils doivent répondre. Et le bonimenteur dans les rues de Londres, ou le camelot auquel on est habitué, il a les mêmes difficultés, les mêmes problèmes à résoudre. Comment faire en sorte qu'un quidam qui se balade dans la rue et qui pense à tout sauf à acheter quelque chose que lui propose le bonimenteur, comment l'attirer? Comment faire en sorte qu'il soit capté, qu'il s'attache à un bien donné et qu'il accepte de le payer? Et il y a tout un ensemble de travaux là, sur les bonimenteurs de rue qui montrent toutes les étapes par lesquelles il faut passer pour arriver à faire payer le gars qui, au départ, ne voulait absolument pas acheter ce que vous lui proposiez. Le Apple, Google, tous, n'importe quelle multinationale à l'heure actuelle est confrontée au même problème. Mais la taille des investissements est considérablement différente. Et assez paradoxalement, les techniques qui sont mises en place par ces multinationales modernes, elles permettent de mieux comprendre les mécanismes marchands, parce que les problèmes sont posés de façon très explicite par les professionnels du marché. Et donc, ce qui apparaissait comme un savoir-faire implicite devient explicite. C'est le cas des... Je fais un parallèle entre les bonimenteurs des rues de Londres et puis les casinos de Las Vegas. Les casinos de Las Vegas, ils se posent exactement la même question, mais elle est d'une certaine manière un peu plus difficile à résoudre. Et en regardant comment les casinos s'y prennent pour capter les clients, les attacher, les rendre addicts, en regardant comment ils fonctionnent, on comprend parfaitement ce qu'est un marché.
Ça, c'est le travail qu'a aussi fait l'anthropologue Natacha Schull autour des machines à sous dans les casinos, et c'est un des points que vous révélez dans cette enquête, Michel Calon. Conversation, coproduction, addiction, toutes ces entreprises au cœur de ce marché cherchent à créer de l'attachement entre le client et le produit, et c'est ce lien qui est aussi constitutif du produit. Dans toute cette chaîne, quelle place pour le consommateur? Est-ce qu'il est un agent du marché comme les autres?
Il est, c'est pas un agent du marché comme les autres, évidemment, parce que c'est lui qu'on traque et c'est lui qui paye, mais il peut s'analyser dans les mêmes termes que les autres. Vous faisiez allusion, là, où vous mentionniez le terme d'attachement pour indiquer que ce que doit résoudre une entreprise qui propose des produits, c'est celui de c'est le problème de l'attachement du produit au consommateur ou au client. Et quand on regarde les techniques qui ont été utilisées, on se rend compte que il y en a trois essentielles. La première, c'est d'introduire une conversation avec le client qui permet, c'est essentiellement fait de nos jours par la publicité, d'intéresser en quelque sorte le client au produit qu'on lui propose en lui disant c'est vraiment ce que vous vouliez. Le deuxième dispositif, c'est celui qui consiste et qui est de plus en plus répandu à faire participer le client à la conception et à la production du bien qui lui est destiné. Alors bien sûr, c'est cette démocratisation de la conception exclut beaucoup de clients potentiels. Et puis le troisième, c'est l'addiction, c'est-à-dire que une manière de capter le client et de faire en sorte qu'il paye et qu'il achète, c'est de le rendre dépendant au sens pratiquement physiologique du terme du bien qu'on lui propose. Et si vous regardez la façon dont l'économie de marché actuelle fonctionne, vous vous rendez compte que l'addiction est un des ressorts absolument essentiels. Que ce soit entre le téléphone portable, les jeux du casino de Las Vegas, l'agroalimentaire, son sel, son sucre et ses graisses, etc., il y a de fortes similarités. Donc le client est un agent comme les autres, d'une certaine manière, mais il est toujours dans une situation de domination. C'est pour ça que je parle de l'emprise des marchés. C'est-à-dire qu'il y a une dissymétrie profonde qu'on peut éventuellement réduire, mais qui est constitutive, en quelque sorte, du fonctionnement des marchés. C'est une des faiblesses, si on peut dire, du marché.
Une question d'Antoine Mercier.
Oui, alors il y avait deux choses. D'une part, j'ai l'impression que vous laissez de côté une partie du marché qui me semble quand même indépendante de tout ce que vous dites, à savoir les besoins naturels que chacun d'entre nous peut avoir, des besoins de consommation courante. On ne peut pas dire que là, ce sont des besoins auxquels on n'a pas pensé ou qui sont fabriqués. Donc il y a peut-être quand même un premier stade du marché qui est effectivement, qui répond à ces lois d'offre et de demande. Ou est-ce que je me trompe ?
Je résiste beaucoup à cette idée qui consiste à dire il y a en somme des besoins élémentaires, la nourriture,
la santé,
enfin dans des conditions raisonnables, l'habitat, le logement, etc. Et puis à côté de ça, vous avez tout un ensemble de besoins qu'on peut qualifier par exemple d'artificiels, de créés par le marché. Comme si en somme, il y avait une forme d'économie vertueuse et morale, et puis à laquelle se seraient ajoutées progressivement des économies artificielles qui n'auraient pour seul objectif que de faire de l'argent. Je résiste beaucoup à cette idée parce que ça part d'une conception du besoin qui est tout à fait critiquable. Ce que j'essaye de montrer dans le livre, mais je crois que, et là je m'appuie sur un grand nombre d'auteurs, c'est que on ne répond pas à un besoin. Lorsque vous proposez un produit, un service par exemple, qu'est-ce que vous proposez ? Vous proposez à quelqu'un ce qu'on appelle dans notre jargon des cours d'action, c'est-à-dire des possibilités d'action auxquelles il ne songeait pas ou qu'il ne pouvait pas entreprendre sans le bien ou sans le service en question. Une voiture, c'est quoi ? Une automobile, c'est quoi ? C'est tout un ensemble de gammes d'actions dont il est très difficile de dire que dans ces actions, il y en a qui sont plus fondamentales que d'autres. De la même façon pour des traitements, de la même façon pour la nourriture, de la même façon pour les services en règle générale, les services financiers par exemple, les biens ne répondent pas à des besoins. Ils ne satisfont pas des besoins, ils ne permettent pas à des utilités de s'exprimer, ils permettent des cours d'action. Il y a d'ailleurs un économiste qui est tout à fait considéré par les professionnels de l'économie, de la discipline économique, qui s'appelle Coase, et qui disait on ne transfère pas des droits de propriété, C'est-à-dire que lorsque je vous vends quelque chose, si je vous vends cette bouteille, je ne vous transfère pas les droits de propriété que j'ai sur cette bouteille, enfin qui m'a été donnée
gentiment.
Bouteille
d'eau, oui, hein, c'est une bouteille d'eau.
Bouteille d'eau qui m'a été donnée gentiment avant l'émission. Je ne vous la transmets pas en cédant mes droits de propriété, en vous les cédant à vous. Je vous transmets une bouteille pour que vous ayez la possibilité de la boire. Et donc de vous engager dans des actions qui sont d'ailleurs pas complètement contenues dans la bouteille en question. Si vous avez envie de toucher
revendre,
votre voisine,
par exemple,
vous pouvez.
Olivia,
c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les détournements d'usage sont complètement inclus dans les biens et dans les services eux-mêmes. Donc on a le besoin de doucher votre voisine, il n'est pas rendu nécessaire par la bouteille, mais la bouteille vous offre cette possibilité.
Le prix monte là.
Vous aviez une deuxième objection, Antoine, ou une deuxième question.
Oui, parce que il y a aussi l'idée, si on admet donc votre système, effectivement, où on voit bien que vous désabstraisez tout ce mécanisme économique pour en faire uniquement quelque chose de phénoménologique dans la démarche de l'échange marchand. Vous avez dit vous-même qu'aujourd'hui, on a beaucoup progressé sur la possibilité de rendre addict. Et donc, vous avez vous-même introduit une dimension peut-être un peu morale en disant, est-ce qu'on peut trouver des limites malgré tout à ce mécanisme-là? Donc, est-ce que vous estimez qu'il faut mettre des limites et lesquelles seraient possibles éventuellement?
Oui, alors là, c'est précisément sur ce point qui est crucial, hein, qu'une approche en termes d'agencement marchand qui insiste beaucoup sur les dispositifs matériels, les outils de calcul, par exemple, je passe beaucoup de temps à montrer que l'agent humain doté de son seul cerveau et de ses seuls sens est incapable, en réalité, de faire des choix, d'évaluer, de comparer. Il lui faut des instruments. Il y a eu un nombre de travaux considérables qui ont été consacrés à l'histoire de la comptabilité en partie double. Alors, on ne va pas rentrer dans la description de la comptabilité en partie double, mais c'est sans la comptabilité en partie double, vous ne savez pas ce que c'est qu'un capital, vous ne savez pas ce que c'est qu'un profit, vous ne savez pas ce que c'est qu'accumuler du capital, etc. Ça a été inventé par les Vénitiens, et puis progressivement amélioré, ça s'est diffusé, et le capitalisme, d'une certaine manière, est né de l'utilisation généralisée de la comptabilité en partie double.
Ça n'a rien à voir avec les doubles comptabilités.
C'est pas les doubles comptabilités dans laquelle vous avez une comptabilité officieuse
et une
comptabilité
officielle.
Non, pas
d'accord.
Du tout. C'est quelque chose de parfaitement normal, standardisé et qui permet d'être capitaliste. Si vous avez pas de compte en partie double, vous pouvez pas être un bon capitaliste parce que vous pouvez pas suivre l'accumulation, etc.
Alors, est-ce que vous voulez répondre à ma question?
Oui, je vais répondre à votre question. C'est-à-dire que là, les limites qu'on peut imaginer pour une économie marchande ne sont pas des limites à imposer de l'extérieur. C'est-à-dire que la façon dont un marché existe, c'est complètement dépendant des outils qui sont utilisés, des formes d'organisation, des rapports de rencontre entre l'offre et la demande, de la forme, des formules qui sont utilisées pour calculer les prix, etc. C'est-à-dire que la morale, au lieu de se situer à l'extérieur pour cantonner le marché, en disant le marché, il est abominable, on marchandise tout, etc. Et ce qu'il faut, c'est l'empêcher de se propager. Au lieu d'avoir une activité extérieure pour le contenir, la solution se trouve dans une activité intérieure, c'est-à-dire dans tous les, ce que j'appelle les cadrages et les dispositifs qui forment l'activité marchande et qui sont à transformer pour remettre de la morale dans le marché.
Alors, de la morale à la conscience, je voulais aussi vous demander, est-ce que vous nous dites que au cœur du marché, il y a une sorte de cahier des charges bien précis, est-ce que les acteurs du marché, qui tentent en permanence de remplir ce cahier des charges, ont conscience de ce à quoi ils participent et de ce qu'ils produisent et de ce qu'ils font et de ce à quoi ça aboutit?
Oui, je fais partie de ces chercheurs en sciences sociales qui considèrent que les acteurs sont conscients de ce qu'ils font. C'est une hypothèse de départ et que qui bien sûr doit être confirmée, mais la conscience est la chose du monde la mieux répandue. Le point là qui est essentiel, c'est celui de ce qu'on peut appeler, on appelle ça en anglais les matters of concern, c'est-à-dire les inquiétudes que suscitent des pratiques ou des activités. Or, dans la façon dont je décris les agencements marchands, il y a 5 lieux critiques, 5 zones critiques où se joue l'avenir des marchés et leur fonctionnement. Il y a la manière dont on transforme en marchandises des choses qui n'avaient pas vocation à devenir marchandises, la façon dont on équipe les agents pour qu'ils puissent calculer d'une certaine manière, par exemple en s'intéressant au profit, la manière dont on organise les rencontres, dont on calcule les prix. Et c'est là, dans la manière dont on établit une formule des prix, par exemple, dans la façon dont on calcule un prix d'un siège, d'un crédit, etc., c'est dans la manière dont on décide de passiver des choses bien vivantes comme des animaux, des êtres humains, des organismes, des plantes génétiques, etc. C'est dans cette manière dont on passive les biens qu'il va y avoir éventuellement production de matters of concern, d'inquiétude. Et c'est là que se joue les transformations et la dynamique des agencements marchands. C'est parce qu'il y a des agents qui résistent aux formes qui sont prises par les agencements marchands que ça bouge.
France Culture, il est 13h22 avec notre invité, le sociologue Michel Calon.
France Culture, la grande table, Olivia Jesbert.
Michel Calon, vous publiez « À la découverte, l'emprise des marchés », ça c'est le titre de votre essai, au sous-titre « Évocateur et interrogateur, comprendre leur fonctionnement pour pouvoir les changer ». Le comble de l'abstraction aujourd'hui, aux yeux de beaucoup, ce sont les marchés financiers. Comprendre pour agir, c'était aussi l'objectif affiché par le journaliste belge Marc Roche dans son documentaire « Les gangsters de la finance » qui dénonce les dérives de la banque HSBC. Une enquête diffusée mardi dernier sur Arte est visible, je crois, pendant plus de 60 jours. En replay extrait.
Chiffres et bénéficiaires donnent le vertige. On y trouve 6 chefs d'État.
Depuis une dizaine d'années, les plus grandes banques internationales sont impliquées dans de multiples scandales. Un nom incarne les excès de cette finance hors la loi. HSBC.
Quel que soit l'endroit où vous vivez et votre activité, si vous voulez ouvrir des comptes secrets à l'étranger, HSBC est votre banque.
Il y a à la fois l'argent de la drogue, à la fois l'argent du terrorisme, à la fois l'argent des diamantaires belges, à la fois l'argent du Gotha, du showbiz.
De Genève à Hong Kong, de New York à Paris, cet empire financier a su tisser un réseau unique pour faire tourner l'argent noir autour de la planète.
HSBC est l'une des meilleures blanchisseuses d'argent sale au monde.
Évasion fiscale, blanchiment de l'argent des mafias, manipulation du cours des monnaies, HSBC est de tous les mauvais coups.
Alors que faire pour le journaliste Marc Roche, auteur de ce documentaire ? Le citoyen est client, il peut changer de banque s'il n'aime pas ce qu'il voit, c'est son choix. La moralisation de la finance est rendue presque impossible par le système des bonus, du trading, de la spéculation. Qu'est-ce que vous en pensez, Michel Calon ? En quoi une approche concrète des marchés peut nous aider à comprendre, voire à éviter ces dérives, et notamment les dérives spéculatives du marché ?
Oui, je crois que l'approche qui consiste à s'intéresser à la complexité des agencements marchands et aux dispositifs matériels qui les équipent permet de, si je peux utiliser cette métaphore guerrière, de multiplier les fronts de lutte et de les diversifier. Parce que si vous adoptez la démarche que vous indiquiez, qui est de dire finalement c'est aux clients de changer de banque et d'essayer de sanctionner en quelque sorte le fonctionnement de la banque, ou aux citoyens de d'élire des gouvernants qui vont changer les règles du marché. Si on se limite à ça, je veux dire, on est à peu près certainement condamné à l'impuissance. La notion d'agencement marchand permet de montrer qu'il y a une série de lieux sur lesquels les fonctionnements des marchés financiers peuvent être contestés. Par exemple, la conception des produits. Vous savez qu'une des grandes, une des causes principales des emballements boursiers qu'on a pu observer sont liés au fait qu'il y a une opacité de plus en plus grande des produits qui sont proposés. Et la conception des produits financiers, produits dérivés par exemple, est un processus qui mobilise beaucoup d'expertise, beaucoup de professionnels, et qu'on a tendance à passer sous silence. On dit il y a des produits toxiques, mais on ne s'intéresse pas au processus de conception lui-même et à la façon dont il peut être organisé, transformé, etc. Voilà un premier terrain sur lequel il est possible de changer le fonctionnement des marchés financiers.
Là, c'est l'exemple même. Vous nous dites comprendre leur fonctionnement, l'emprise des marchés, pour pouvoir les changer. Là, vous nous expliquez très bien comment on les comprend. Mais comment on les change, ces comportements?
Et il y a comment on les change ? Ben il y a dans tous ces secteurs où l'agencement marchand, son fonctionnement se joue. Là, je parlais de la conception des marchés. Dans tous ces secteurs, il y a des acteurs qui se mobilisent pour éventuellement proposer des alternatives. Par exemple, sur les produits financiers, vous avez des propositions qui sont faites par certains pour que les produits financiers, on en a entendu parler récemment lors de la réunion sur l'environnement, sur le changement climatique, pour qu'il y ait des produits financiers d'un type nouveau qui soient indexés sur d'autres valeurs sous-jacentes, qui imposent certains cahiers des charges, etc. Donc il y a tout un mouvement qui existe autour des produits financiers. J'aurais tendance à dire, ça n'est pas à l'observateur d'imposer des réformes, comme le font souvent les économistes qui croient savoir comment fonctionnent les marchés. L'observateur ou celui qui s'intéresse au marché, il est plutôt là pour dire, attention, le marché il se joue là, il se joue aussi en d'autres endroits, et regardez ce qui est proposé par un certain nombre d'acteurs ou de personnes qui sont inquiète de la façon dont fonctionnent les marchés. Alors pour les marchés.
Est-ce que vous avez ouvert cette émission, pardon Michel Callon, en souhaitant désidéologiser cette question? Finalement, la question n'est pas tant comment les changer que pourquoi les changer. Et on sent que, en sociologue ou en citoyen, il y a quand même dans cette manière de rendre concret les marchés, pour vous, l'envie d'aller vers un autre marché. Alors est-ce qu'un autre marché est possible et pourquoi est-il souhaitable?
C'est-à-dire d'autres formes d'organisation des marchés. Souvent on dit pour contrôler les marchés et les organiser, il suffit de bien les réguler. On insiste beaucoup sur les règles. Le fait que je montre que les marchés, c'est avant tout un ensemble de pratiques matérielles, de conception de produits, de façon dont on attache ou pas les clients, etc., change complètement la cible. Qu'est-ce que ça veut dire que changer un marché ? Ça veut dire changer tous ces dispositifs qui permettent de calculer les prix, de faire se rencontrer des offres et des demandes qui ne se connaissent pas, d'intéresser les clients à des biens qu'ils ne connaissent pas, de calculer et d'évaluer la valeur des biens. Tous ces dispositifs-là qui supposent des outils, des formes de pratiques, lorsqu'on les change ou lorsqu'on les reconfigure, ils modifient le marché. Ce qu'on appelle le marché, c'est-à-dire que le marché n'est pas une construction dont on peut faire le tour facilement et qui est unique dans sa raison d'être, c'est une grande diversité de configuration. Et j'aurais tendance à dire que si on veut s'éloigner de ce qu'on appelle le capitalisme, il faut commencer par travailler à la reconfiguration des agencements marchands, c'est-à-dire transformer la manière dont on conçoit les produits, dont on calcule et évalue ce qu'ils sont, et la façon dont on formule les prix. C'est là que se joue l'avenir des marchés, c'est là qu'on peut retrouver la possibilité de fabriquer des marchés qui correspondent à un cahier des charges nouveau.
Merci beaucoup Michel Callon. L'emprise des marchés, comprendre leur fonctionnement pour pouvoir les changer. Votre essai-enquête vient de paraître aux éditions La Découverte. Chaque jour quand une grande table se referme, elle se rouvre immédiatement sur franceculture.fr où vous pouvez vous abonner au podcast de l'émission. À la programmation préparation, Claire Maillot et Coppelia Ménardi, Clémence Marie et Henri Leblanc pour la première partie, avec l'aide précieuse toujours de Bertie Baudon et de Maxime Morin. À la réalisation aujourd'hui, Liscombe avec Jean Frédérix. Très bel après-midi à tous.